Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro Moussa Maman de la radio Nomade FM Agadez, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble de 8 régions du Niger grâce à un réseau de 46 radios et 6 télévisions partenaires. À Agadez, vous écoutez ce forum sur les ondes des radios Nomade FM et Sahara FM. Le forum d'aujourd'hui a pour thème « Quel est le meilleur pour les enfants mineurs nigériens refoulés d'Algérie ?» De 2014 à 2020, au total 57 455 Nigériens ont été refoulés d'Algérie selon l'Organisation internationale pour la migration OIM. Parmi ces refoulés, 34% sont des mineurs, selon la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. Les enfants en question sont soit des enfants non accompagnés et accompagnés, soit scolarisés ou non scolarisés. Une grande majorité des Nigériens refoulés d'Algérie sont des ressortissants de la région des Zinder et pour la plupart des Kanché. Comment se fait la prise en charge des enfants refoulés d'Algérie? Comment situer les responsabilités? Quelles sont les dispositions à prendre pour endiguer ces problèmes? Pour en débattre, nous avons invité Amadou Alassane, directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, à la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. Adamou Abi, chef d'état civil de la commune d'Agadez. Amadou Oumarou, représentant de l'Observatoire régional de la migration d'Agadez. Aboubakar Sodé, représentant régional de la coalition nigérienne des droits des enfants CONI. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Selon la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez, plus de 1200 migrants, dont 600 enfants mineurs non accompagnés, ont été refoulés d'Algérie en mai 2021. Malgré leur jeune âge, ces mineurs ont été acheminés à la frontière algérienne dans des conditions difficiles. Écoutons leurs témoignages.
Nous avons souffert en cours de route depuis que nous avons été embarqués dans les camions jusqu'à arriver ici à Agadez. Nous avions soif, il faisait chaud. Il y a même certains parmi nous qui se sont évanouis. Il faisait très très chaud. Tout mon corps me fait mal.
Quand on nous a pris d'Alger, nous avons fait beaucoup d'escales en cours de route sous le soleil. Nous étions assoiffés. Nous ne pouvions pas nous coucher ni nous asseoir à l'aise. Nous avons supporté comme ça jusqu'à l'arrivée. Nous faisions de la mendicité. Nous sommes fiers du fait qu'on nous a ramenés. Présentement, mon corps me fait mal partout.
Quand nous avions quitté l'Algérie, nous ne sentons que de la chaleur et nous avions soif. Quand tu demandes de l'eau, on te donne seulement quelques gouttes. Quel que soit comment tu vas te coucher dans le camion, tu sentiras la chaleur. Nous avons pleuré au cours du voyage. Maintenant que nous sommes arrivés ici à Agadez, notre souhait, c'est de nous acheminer chez nous auprès de nos parents.
Monsieur Amadou Alassane, directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, pouvez-vous nous présenter la situation des mineurs refoulés d'Algérie? Combien sont-ils et dans quelles conditions vous les avez trouvés?
Donc, par rapport à la protection de l'enfant, la direction régionale se concentre sur deux programmes. Un programme par rapport à la protection des enfants en situation de migration et un autre volet de protection des enfants qu'on appelle service régulier qui concerne tous les enfants qui ne sont pas forcément dans le cadre de la migration. Donc, concernant ce volet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la migration des enfants, donc pour l'année 2020, nous avons pris en charge 1049 enfants refoulés de l'Algérie. Et pour l'année 2021, nous avons pris 908 enfants, ce qui nous donne un total à peu près qui avoisine 2000 enfants nigériens non accompagnés qui sont refoulés de l'Algérie.
Alors, dans quelles conditions vous les avez trouvés?
Il faut le préciser, les enfants en situation de migration, généralement, quittent le Niger donc sous forme de confiage avec des adultes qui partent en Algérie dans l'intention donc d'envoyer aux familles respectives donc des sommes d'argent pour faire face à l'insécurité alimentaire. Mais une fois sur le territoire algérien, c'est pas la réalité parce que les enfants vivent de la mendicité, ils vivent dans la rue, d'autres même vivent en brousse pour être à l'abri des forces de défense et de sécurité. Donc, une fois ces enfants, quand les rafles, ils sont détenus dans des camps où ils sont entassés, et une fois le nombre important, donc l'Algérie procède au refoulement à travers des convois officiels et des convois non officiels. Donc, arrivé à Agadez, la direction régionale les accueille ici au niveau du centre de transit et d'orientation où un certain nombre de paquets d'activités sont offerts aux enfants. Nous allons revenir.
Merci, Monsieur Amadou Alassane. Adamou Abi, vous êtes représentant de la commune d'Agadez, chef d'état civil de la commune d'Agadez. Comment vous gérez ces phénomènes de Nigériens refoulés d'Algérie en général et particulièrement le cas de mineurs, tout en sachant que ces migrants transitent par la commune d'Agadez?
Ce phénomène est un phénomène qui est là, qui a tellement duré. C'est pas cette année que ça a commencé. C'est des gens qui quittent les régions de Zander, voire Maradi, et même certaines régions même Agadez, qui des familles ou des personnes sont avec des enfants, une multitude d'enfants qu'ils amènent vers l'Algérie pour leur dire que c'est pour faire un travail. Mais en réalité, c'est pas un travail qu'ils font, c'est du pur esclavagisme, c'est la traite des enfants. Mais le grand problème que nous vivons maintenant, au moment où ils sont refoulés de l'Algérie, on les amène à Assamaka, et d'Assamaka, il y a un système qui a été mis en place par l'État du Niger. Tous ceux qui sont des refoulés nigériens sont pris en charge par le dispositif. Il y a un dispositif qui est mis en place au niveau du gouvernorat. Et ce dispositif prend en charge le retour de ces migrants nigériens au niveau de leur région d'origine ou leur commune de natalité. Mais les autres sont pris en charge par l'OIM. En ce qui concerne les Nigériens, c'est l'État même du Niger.
Les autres, c'est les étrangers?
Les étrangers. Les étrangers, eux, sont pris en charge par l'OIM. Maintenant, le dispositif, c'est l'État même du Niger qui prend en charge le retour de ces Nigériens. Donc, on scinde l'ensemble quand il y a un convoi. Parce qu'un convoi, c'est plusieurs milliers de personnes. Ça peut aller 2000, 3000 personnes qui viennent le même jour. Il y a un système de tri et de convoyage qui est fait à partir des régions ou des communes de nos compatriotes pour leur retour, où on les achemine gratuitement. Et aussi, il y a une sorte d'aide, comment dirais-je, en matériel sec qu'on leur donne, c'est de couverture, des fois des seaux, des nattes, des brouillards, pour qu'ils puissent retourner chez eux avec. Mais malheureusement, c'est un système qui est là. Malgré que on les fait retourner dans leur commune d'origine, un mois, deux semaines après, les mêmes personnes qui ont été retournées, vous les verrez encore à Agadez. Et ce qui est très important ici de le dire, les gens se parlent uniquement des refoulés. Ces refoulés-là, ils vivent ici, certains à Agadez. Il y a des quartiers entiers qui sont créés par ces migrants. Donc, nous, il y a ce qu'on appelle la migration interne. Les mêmes gens qui vont en Algérie et qui sont refoulés, quand ils viennent encore, certains s'installent ici dans la commune urbaine d'Agadez. C'est pas une honte de le dire. Partez dans les quartiers vers Misrata et Tadres, vous verrez que c'est une réalité que nous sommes en train de dire.
Merci Adamou. Monsieur Aboubakar Sodé, en tant qu'acteur de la société civile qui œuvre dans le domaine des droits des enfants, quel rôle joue votre organisation dans la situation des Nigériens refoulés d'Algérie en général et en particulier celle des enfants?
Moi, je peux vous dire que, en tant qu'ONG, jusqu'à présent, nous avons fait des activités dans le sens de renforcer les capacités des acteurs de prise en charge, enfin, des acteurs de droits de l'enfant pour qu'ils puissent valablement et en synergie, en tout cas, répondre aux besoins qui s'imposent sur le terrain. Nous avons fermé les gens sur les droits de l'homme, sur le droit de la prise en charge l'accompagnement, tout ça là, donc afin de pouvoir en tout cas répondre aux besoins de ces migrants-là. Donc en général, comme vous l'avez dit, nous travaillons dans le domaine des droits de l'enfant en général, et particulièrement le cas des migrants refoulés peuvent être considérés comme étant tels.
Les droits des enfants, si on prend les enfants mineurs, vous avez fait quelque chose?
Les mineurs, nous avons, comme je viens de le dire, renforcé les capacités des acteurs, en tout cas des ONG, associations et même les médias, pour qu'ils puissent en tout cas valablement prendre en charge cette question de droit de l'enfant. Donc en réalité, Action en tant que mise en œuvre, c'est seulement renforcer les capacités, leur montrer comment faire en tout cas pour pouvoir en tout cas répondre à tous les besoins, tous les paquets de services qui sont offerts, qui soient offerts en tout cas au niveau d'Agadez et qui soient pris en charge, en tout cas offerts à ces mineurs-là qui sont de passage ou qui sont résidents à Agadez.
Merci, Monsieur Aboubakar. Amadou Marou, quel rôle joue l'Observatoire régional de la migration sur la situation des Nigériens refoulés d'Algérie?
Merci, Monsieur Moussa. L'Observatoire régional sur la migration, permettez-moi d'abord de remercier la coopération allemande pour la mise en place de l'observatoire au niveau de trois régions du Niger, Agadez, Zander et Tawa. L'observatoire, c'est un outil d'analyse des flux migratoires au niveau de ces trois régions-là. Donc, pour aider les collectivités, effectivement, à mieux analyser la situation des flux migratoires, sur la situation des migrants de transit, des migrants circulaires, etc. Donc, par rapport et les refoulés d'Algérie. Donc, ce cycle nous a permis de voir qu'il y a la migration des mineurs prend de plus en plus l'ampleur et il dirige vers l'Algérie. Parce que tous ces migrants qui viennent, qui conduisent des Kanché ou bien, je ne sais pas, des autres régions, ils passent par l'Algérie. Ils n'empruntent pas la route de la Libye. C'est ça dans le cycle d'analyse que l'Observatoire aide les collectivités à faire des analyses pour gérer les conséquences de la migration.
Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement sur la situation de ces refoulés qui viennent, surtout qui partent à l'Algérie et qui reviennent?
L'Observatoire n'a pas une activité au niveau des refoulés. On fait seulement des cycles d'analyse et on fait des priorités au niveau des régions pour voir quelles sont les mesures. On fait les mesures, maintenant c'est aux collectivités de transmettre ces mesures-là à un partenaire pour les aider à mieux gérer cette conséquence de migration.
D'accord. Monsieur Amadou Alassane, on revient avec vous, le docteur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. Alors, quelles sont les conséquences à court et moyen terme qu'il faut craindre pour ces enfants?
Les conséquences qu'il faut craindre pour les enfants... Et d'abord, il y a les conséquences directes le long du voyage sur la route migratoire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la traversée quand même du désert ces dernières années a engendré beaucoup de disparitions des personnes suite donc aux pannes des véhicules ou bien à l'égarement dans le désert. En dehors de ça, la majorité des enfants qui sont transportés en Algérie, soit par des adultes qui les ont recrutés, sont soumis soit à l'exploitation, soit à la traite des personnes. Et en dehors de ça, vous allez voir que 95% des enfants n'ont pas des pièces d'identité, ni des pièces d'état civil. Donc, et la pièce d'état civil, c'est ça qui préserve l'identité d'une personne par rapport à son pays, par rapport à son village. Et donc, ces enfants peuvent être kidnappés dans les autres pays le long de la route migratoire, surtout ces derniers temps où on sait que la zone du Sahel est quand même marquée par beaucoup de conflits. Donc, c'est un terrain vraiment favorable qui expose ces enfants à beaucoup de recrutements, comment je peux l'appeler, des organisations criminelles peuvent s'en prendre à ces enfants. Et une fois aussi, en Algérie, les conséquences sont multiples, parce que les enfants sont raflés et détenus dans des camps. Donc, leurs biens sont confisqués. ils sont refoulés. Vous allez voir des enfants qui viennent dans des situations très déplorables, des enfants qui ne peuvent même pas parler, qui n'ont pas des chaussures, qui sont mal vêtus, des certaines filles qui portent des grossesses. Et aussi, nous avons eu aussi à détecter des cas d'IST. Donc vraiment, avec tous ces problèmes aussi, il faut songer à la question d'apatridie qui aujourd'hui, les pièces d'état civil sont vraiment un atout pour préserver les personnes de l'apatridie. Alors que ces enfants qui sont des Nigériens, qui quittent les pays pour d'autres horizons, n'en ont pas et n'ont pas pour les pays d'accueil. Donc c'est vraiment un terrain qui peut permettre à ces personnes-là de rester apatrides.
Adamo Abi, quelles sont les conséquences à court et moyen terme qu'il faut craindre pour ces enfants?
Les conséquences sont vraiment énormes. Elles sont énormes. Il y a déjà le directeur qui a commencé à les énumérer. Des enfants qu'on amène dont on ne connaît même pas leur origine. Parce que d'après une enquête que nous avons eu à mener à la source, même à Kanté, on a été pour voir comment ce processus évolue. Vous allez voir, c'est une personne à qui des parents ou des gens confient leur enfant, moyennant un dû au retour. Ça veut dire que cette année, quelqu'un peut venir lui dire « Ah, donnez-moi vos enfants, je vais vers l'Algérie avec eux, et au retour, on va vous donner un 200 000 ou un 500 000. » Parce que là-bas, l'argent est facile. Il y a du travail, et facilement, on peut gagner de l'argent. Mais cet argent-là, il le gagne comment? En Algérie même, c'est pas du travail que les enfants font. Certains, on les apprend à voler chez des gens. D'autres, ils sont là pour mendier. Et aujourd'hui, un enfant de 13 ans, 12 ans, 11 ans, 10 ans, 14 ans, à qui on n'assure pas une éducation, que ce soit une éducation européenne ou une éducation religieuse, quel est son sort? Il va devenir vraiment un bandit, un grand hors-la-loi dans la ville. Et la deuxième conséquence, et c'est que ces enfants, aujourd'hui, ils ne savent même, on ne sait même pas, ils sont d'où. Du moment où, quand ils quittent leur commune de départ, c'est des enfants qui ne sont munis d'aucune pièce d'état civil. Aucunement. Parce qu'il suffit qu'un véhicule soit arrêté à la barrière et qu'on demande où est le parent de ces enfants se trouvant dans ce véhicule. Personne ne veut dire que c'est ses enfants. Parce qu'ils savent que la loi est là pour contrecarrer cette pratique. Aujourd'hui, c'est des enfants vraiment laissés à eux-mêmes. Sans éducation, ils n'ont aucun métier. Et on les apprend seulement à mendier et à mentir. Et aujourd'hui, c'est des enfants, quand vous les voyez en cours de route, ils sont même des drogués. Certains sont exposés à des consommations de stupéfiants qui, aujourd'hui, est en train de détruire leur cerveau. Et ce qui est plus grave, d'ailleurs, vous allez les voir, hein, ils sont en train de rire. Quand tu vas leur demander « Amenez-nous chez vous », difficilement la personne va te montrer là où même il est logé ou bien là où il réside. Et quand vous partez dans les maisons, que les parents là sont en train d'abriter, vous allez trouver que c'est une hutte avec une femme ou un homme, avec une dizaine ou une vingtaine d'enfants. Et tout dernièrement, il n'y a même pas un mois, ces mêmes populations dont je vous dis, il y a un système, ceci, comme si c'est une migration interne du Niger. Au niveau du quartier Tadresse, il y a des enfants qui ont quitté, dont on ne connaît même pas là où ils sont. Et ses parents sont venus se plaindre pour dire qu'ils sont à la recherche des enfants. Mais un mois après, on a retrouvé que ces enfants ont été égorgés. On a trouvé leur corps. C'est terrible. C'est terrible et personne ne dit rien. Donc, les conséquences sont là. Elles sont énormes. Il faut une prise de conscience réelle des populations. Il faut une prise de conscience réelle de nos dirigeants pour trouver une solution adéquate à cette migration, que ça soit interne ou externe, parce que les deux formes existent. C'est pas parce que tu es Nigérien. Quand tu quittes ta commune pour venir à une commune ou ta région à une région, c'est aussi une forme de migration. Et cette forme de migration, nous, quand on était petit, tout petit, moi, jusqu'aux années 1987, moi, j'avais à peu près 17 ans. Je me rappelais très bien à Niamey. Le pouvoir a une période d'approche de saison de pluie. Il y a des rafles qu'on fait pour ramener les gens chez eux. Et cela fait que beaucoup de choses sont limitées. Mais pour l'instant, les gens sont laissés à eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une prise de conscience.
Merci, monsieur Adamou. Monsieur Amadou Marou, quelles sont les conséquences à court et moyen terme qu'il faut craindre pour ces enfants?
Les conséquences, monsieur Moussa, comme l'ont dit mes prédécesseurs, sont multiples. D'abord, il y avait le risque que ces migrants-là traversent le désert à haut risque. Et il y a aussi les conséquences qui sont là au niveau de la commune. On a remarqué la dépravation des mœurs cause et une forte pression sur les services sociaux de base au niveau des communes de passage de ces migrants. Aujourd'hui, on a aussi remarqué le logement parce que ces migrants qui viennent, ils couchent au ras du sol. Il y a l'assainissement, il y a la santé et des enfants qui ne sont pas éduqués et qui viennent ici causer avec les enfants qui sont à l'école, les autochtones. Ça, c'est un problème. Parce que ceux qui partent à l'école, quand les enfants des migrants là viennent, ils les dérangent au cours de... Quand tu pars dans les écoles, tu vas voir ces enfants-là en train de courir, en train de faire la mendicité. Donc ça impacte les élèves qui sont ici. Ça, c'est aussi des conséquences qui sont très graves qu'on doit chercher à gérer. En tout cas, selon les analyses, voilà, en grosso modo, ce qu'on a vu comme conséquence de cette migration.
Monsieur Aboubakar Sodé, et vous, quelles sont les conséquences à court et moyen terme qu'il faut craindre pour ces enfants?
Ok, merci Moussa. Moi, je pense que tous mes prédécesseurs ont presque tout dit, mais je pense qu'il y a d'autres petites choses, il y a quelque chose à ajouter. Et par rapport aux conséquences qu'on laisse, c'est des jeunes. Déjà, c'est une conséquence, vraiment, le fait que les jeunes ont quitté chez eux à la recherche d'un lendemain meilleur, comme on dit, à la poursuite d'un périple jusqu'à l'Algérie et se faire refouler. Il faut voir vraiment les conséquences que tout ça peut engendrer. Et au niveau d'Agadez, il faut voir il y a la hausse ou bien la multiplication des crimes, comme on a dit, des délinquances des jeunes. Vous voyez, même dans la rue, les jeunes là peuvent à tout moment, et c'est venu d'ailleurs, prendre leur consomme de n'importe quoi et devant tout le monde. Et ça là, c'est les conséquences. Ça vient d'ailleurs, c'est des choses que nous ne connaissons pas, c'est maintenant que c'est en train de venir. Et ces gens là qui sont partis là-bas voir, observer ce qui se passe là-bas, et ils viennent nous rapporte ça ici. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, l'école. Les jeunes ne fréquentent pas.
Alors, monsieur Amadou Alassane, on revient avec vous. Vous êtes directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Quel est le soutien que vous apportez dans la prise en charge de ces enfants?
Ok, merci, monsieur Moussa. Donc, par rapport à la prise en charge des enfants en situation de migration, la direction se concentre sur les enfants nigériens non accompagnés et ou séparés. Donc les autres adultes nigériens sont pris en charge par le dispositif national de gestion des crises et des catastrophes naturelles et l'OIM se concentre sur les migrants des autres nationalités étrangères. Donc concernant les enfants non accompagnés, comme vous l'avez constaté, nous disposons d'un centre de transit et d'orientation pour mineurs qui a deux compartiments. Donc un bloc réservé pour les filles avec les dortoirs bien équipés, des lits moustiquaires avec de latrines, des douches où il y a aussi des balançoires. Et de ce côté garçon aussi, nous avons un dortoir équipé de lits, des matelas, des moustiquaires, des hangars récréatifs pour les deux pavillons et donc des latrines. Il y a aussi les activités socio-récréatives qui sont organisées à l'intention de ces enfants une fois au CTO pour que ces enfants, en tout cas, puissent oublier les charges émotionnelles et les dépressions qu'elles ont vécues le long de la route migratoire et dans les pays d'accueil. Donc après ces activités socio-récréatives qui sont organisées par des travailleurs sociaux, nous avons l'alimentation d'urgence, donc qui est accordée à tous les enfants le matin, à midi et le soir, 3 repas. Nous avons une équipe médicale composée de 2 infirmiers, une infirmière, un infirmier, qui font le screening médical pour détecter les maladies et éventuellement procéder à des hospitalisations et des soins à ces enfants. Donc après l'hospitalisation, après tout ce travail, donc il y a un autre paquet qui regarde le juge des mineurs avec qui on collabore, qui vient faire des entretiens avec les enfants, détecter des cas d'exploitation, des cas de traite pour des éventuelles poursuites et voir si les enfants souhaitent réellement retourner auprès de leur famille. Donc, une fois que cet entretien est terminé, ils nous délivrent un papier qu'on appelle l'ordonnance de retour en famille et nos agents procèdent donc au retour en famille des enfants avec des bus que nous louons jusqu'au niveau des régions d'origine. Voilà, de façon un peu résumée.
Merci beaucoup, Monsieur Amadou Alassane. Monsieur Adamouabi, comment situer les responsabilités?
Bon, les responsabilités sont à deux niveaux. D'abord, il y a la responsabilité paternelle de nos populations. Il y a aussi la responsabilité de l'État et aussi la responsabilité de la société. Parce que ce phénomène-là, ça fait à peu près une dizaine d'années que ce phénomène est créé. Donc, au niveau des communes, le lieu même de départ de ces refoulés, je crois que les populations de ces communes-là doivent se concerter pour voir quels sont les programmes qu'ils doivent faire à ces gens qui quittent leur commune pour aller vers, aujourd'hui, excusez-moi du terme, vers la mort. Parce que moi, j'appelle ça un voyage vers la mort. Parce qu'un voyage qu'on entreprend, dans, il n'y a aucune voie légale. Parce que les voies légales ont été sécurisées par l'État. Maintenant, il y a d'autres voies que ces gens sont en train d'entreprendre pour aller vers. Ils contournent tout ce qui est les voies normales de voyage pour aller. Donc c'est pour cela que je dis que c'est un voyage vers la mort. Maintenant, ces sociétés, ces communes-là, doivent vraiment faire des forats communaux pour voir comment stabiliser leur population au niveau même de leur commune. L'État, à un certain moment, l'État a tenté de stabiliser ces gens parce que les familles qui ont eu la chance d'être ramenées chez eux ont été accompagnées. Parce que je me rappelais très bien, en 2012, tout le monde l'a vu, au moment où il y a eu le retour de ces refoulés d'Algérie vers leur commune, l'État, en collaboration avec les partenaires, les a sécurisés au niveau de leur commune en leur donnant des cellulaires. Et à la fin de chaque mois, on t'appelle pour te dire, viens prendre ce montant pour que tu puisses vraiment subvenir à tes besoins pour ne pas encore emprunter la route. Je crois que ce premier pas, l'État l'a fait, mais l'État doit redoubler d'efforts. Elle doit redoubler d'efforts pour trouver, comment dirais-je, des micro-projets consistants.
On veut savoir où se situent les responsabilités.
La responsabilité, elle est là, les parents, les premiers à être indexés. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas mettre mon enfant au monde et le confier à quelqu'un pour dire, sachant bien que c'est un mineur, le confier à quelqu'un pour dire qu'il va voyager avec lui, moyennant une somme qu'il va m'amener. Est-ce qu'il se demande quel travail le petit là est en train de faire, là où ils sont en train de partir? Donc, il faut d'abord situer les responsabilités. C'est les parents. Maintenant, la société. Parce que, d'après l'enquête menée au niveau de ces communes vers Kanté, c'est parce qu'on a vu quelqu'un, il est parti cette année, 2 mois, il revient, il a tellement d'argent, il change un peu la vie de sa famille ou de sa petite communauté. Et tout un chacun, parce qu'il a vu que cette famille-là a changé, l'année prochaine, là, tout le monde veut aller. Parce qu'ils ne savent pas comment l'autre-là a trouvé ce qu'il a trouvé, et comment, s'il a volé, ou bien si quel est le processus qu'il a subi pour avoir ce qu'il a amené, et qui est devenu un cas d'orgueil ou de complaisance. Donc, la société aussi est responsable par rapport à ça. C'est les parents et la société.
Voilà, merci Monsieur Adamou. Donc, on revient Monsieur Amadou Oumarou. Comment situez-vous les responsabilités?
En tout cas, moi, à mon avis, les responsabilités sont situées à quelques niveaux. D'abord, comme l'avait dit Adamou, aux parents de ces enfants, à l'État et aux partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans cette thématique. Ça, c'est leur responsabilité. Maintenant, pour donner réponse à toutes ces questions, cette souffrance aux ces enfants-là qui n'ont aucun avenir, parce qu'ils n'ont aucun avenir, un enfant qui n'est pas éduqué, il est capable de tout, parce que l'ignorance... C'est ça qui pousse les gens vraiment à aller à organiser des crimes, des banditismes, etc. C'est des enfants qui ne sont pas éduqués. Donc la responsabilité se situe. L'État aussi doit prendre des dispositions pour empêcher, pourquoi pas, parce qu'il y a des lois qui sont là, pour empêcher les lois pour la traite des personnes. La traite des personnes, les collectivités au niveau des pays de départ. C'est-à-dire qu'il faut que la mise en œuvre de cette loi, la traite et le trafic illicite des migrants, la loi numéro 2015-36, il faut qu'il y ait la mise en œuvre de cette loi. Parce qu'on a remarqué que ces enfants qui viennent, on dit qu'ils sont accompagnés par leur maître. Pour les amener en Algérie, travailler forcément et eux, ils retiennent les ressources. Ça, c'est vraiment prendre des dispositions depuis leur pays d'origine pour la mise en œuvre de cette loi. Empêcher ces gens-là à migrer de tort et à travers.
Alors, Monsieur Aboubakar Sodé, comment situez-vous les responsabilités?
Les responsabilités, Monsieur Moussa, moi, je pense qu'elles sont partagées. Chacun, en ce qui le concerne, doit jouer sa partition. L'État, la famille, la société, la communauté, c'est toute une chaîne. Et dès qu'il y a une défaillance ou bien dès qu'il y a une rupture quelque part, donc on peut vraiment constater que effectivement quelque part la responsabilité il y a une défaillance dans le système. L'État doit jouer sa partition. Ça est d'une manière générale ou d'une manière ou de l'autre responsable.
Et pourquoi vous dites ça?
Oui, parce que il faut créer les conditions. L'enfant a droit, on a dit, à la santé, à l'éducation, à ceci, à cela. Donc il faut mettre tout cela les mettre dans ces conditions-là. S'il y a une défaillance, les parents ne peuvent pas, ils sont pauvres, ils ne peuvent rien. Donc l'enfant, effectivement, une fois qu'il y a cette défaillance-là, l'enfant n'a pas été à l'école, il ne l'a pas inscrit, il ne suit pas l'école, les parents n'ont pas les moyens, en tout cas, pour suivre ces enfants-là. Donc c'est à partir de là qu'on peut constater, si vous voulez, la défaillance. Donc l'État, en premier, la famille, en deuxième, la société, la communauté, en tout cas chacun en ce qui le concerne a une partition
des responsabilités.
Monsieur
donc Amadou Alassane, comment situer les responsabilités?
Bon, pour ce qui est des responsabilités, en tout cas les responsabilités sont à plusieurs niveaux. D'abord, il faut situer la responsabilité au niveau de la cellule familiale, parce que la cellule familiale c'est le noyau de base. La responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants, c'est ça, de donner une bonne éducation, de sécuriser les enfants, de les protéger et de faire en sorte que les enfants réussissent dans la vie. Ça, c'est la responsabilité des parents. Quand vous allez voir le cercle de protection de l'enfant, ça commence d'abord par la famille. C'est quand la famille n'a pas les moyens de le faire qu'on trouve des cas d'enfants dans la rue. Donc, en premier lieu, il y a la responsabilité parentale. Ensuite, il y a l'État qui doit créer les services sociaux de base tels que l'école, créer les conditions d'accès, créer les conditions de maintien. Et en dehors de l'État, il y a aussi la communauté plus... la société civile et la communauté internationale.
Alors, selon
qui
vous,
doit appuyer.
Quelles sont les dispositions à prendre pour endiguer ce problème?
Bon, les dispositions d'abord qu'il faut prendre pour endiguer ces phénomènes, en tout cas, chaque fois, je ne cesse de le répéter,
il faut créer les conditions de stabilisation des communautés au niveau de leur terroir, en créant les services sociaux de base, c'est-à-dire la santé, l'hydraulique, l'école. Il faut soutenir l'agriculture familiale, la production agricole, puisque la majorité des personnes qui sont concernées par ces phénomènes, en tout cas, disent qu'ils sont dans la situation d'insécurité alimentaire. Il faut soutenir la production agricole dans ces zones-là. Il faut continuer à sensibiliser les acteurs, les parents, par rapport au danger de la migration illégale et à haut risque. Surtout les enfants. Un enfant ne doit pas prendre en charge ses parents. Il doit être à l'école, il doit être dans une institution qui doit lui inculquer les savoirs pour être un adulte responsable de demain. Donc voilà, vraiment, nous pensons qu'avec les sensibilisations et aussi l'implication de la justice, il y a les textes, il faut que les questions de traite d'enfants, les questions d'exploitation, qu'il y a un arsenal juridique qu'on doit mettre en œuvre et appliquer. Et la question des mendicités. Il faut que la mendicité que les gens se disent, elle n'est pas religieuse. L'islam, en tout cas, condamne la mendicité. Et par conséquent, pour que la dignité du Niger soit restaurée à l'échelle internationale, il faut que notre communauté soit à l'abri de la mendicité.
Merci, monsieur le directeur. Adamou Habi, on revient avec vous. Quelles sont les dispositions à prendre pour endiguer ces problèmes?
Donc, merci Moussa. Les dispositions sont là, elles sont claires. D'abord, il faut d'abord créer les conditions que ces enfants puissent aller à l'école. Il faut créer les conditions pour ceux dont leur âge ont dépassé le système éducatif, créer des centres d'apprentissage leur permettant d'apprendre des petits métiers, voire même des grands métiers, tout en faisant tout cela au niveau de leur commune initiale. Ça ne sert à rien de leur apprendre un travail au niveau de la commune urbaine d'Agadez, malgré qu'ils sont là, ils sont nombreux. Créer les conditions d'abord de les ramener chez eux, leur apprendre, trouver les moyens, même si c'est avec les partenaires. Les conditions sont là, c'est le père qui crée les conditions. Le père de la nation, c'est qui? C'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est par manque que ces populations ont quitté. Il ne faut pas avoir honte de le dire. L'État doit créer les conditions nécessaires du retour de ces gens-là vers leur commune, leur première commune, voir comment faire pour que ces enfants retournent à l'école ou créer des écoles, professionnelles au niveau de leur commune, parce qu'on a déjà commencé. J'ai vu, il y a des écoles d'apprentissage un peu partout, même à Agadez, ça a été créé. Créer ces écoles au niveau de leur commune pour que ces enfants apprennent d'abord ce qu'est un métier, leur permettant vraiment de quitter la voie de la débauche. Parce qu'aujourd'hui, c'est une débauche totale. Parce que des enfants qui sont en train de mendier, des enfants qui sont sous l'emprise de la drogue, il ne faut pas avoir honte de le dire. Quand tu vois l'enfant en train de demander, tu le prends en main, tu vas comprendre qu'on l'a donné quelque chose pour qu'il puisse aller faire tout ce qu'il est en train de faire. Donc, les solutions sont là. Tout le monde voit les solutions. Mais comment les réaliser? D'abord, il faut que nous prenions en compte que ces enfants-là, c'est nos enfants. Même si ce n'est pas ton fils, mais c'est le fils de quelqu'un. Toi-même, ton enfant, dans quelques années, tu ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, la mort peut nous surprendre. Donc, ce que nous voulons à nos propres enfants, souhaitons-le aussi à ces enfants qui sont là dans la rue. Il faut qu'on leur souhaite cela. Donc, voilà, créer les conditions, les sécuriser d'abord, en les faire retourner chez eux, et créer des écoles professionnelles pour qu'ils apprennent à faire un métier. Et ces métiers-là, dans le temps, ça va devenir, un travail lucratif pour eux. Voilà les solutions.
Merci Adamou. Monsieur Aboubakar Sodé, quelles sont les dispositions à prendre pour endiguer ces problèmes?
Nous l'avons dit, et ce n'est pas un secret pour personne, tout le monde le sait. Les enfants ont droit à l'éducation, à la santé, à la nourriture, hein, à un environnement sain. Donc, qui doit créer ça, on le sait. Où et comment? L'État en premier, comme je l'avais dit. L'État doit créer toutes ces conditions-là pour que l'enfant soit maintenu chez lui, à la maison. Les parents doivent accompagner l'État aussi, appuyer l'État, participer à vraiment à créer ces conditions-là à leur enfant. Et s'il y a une défaillance, on sait que la société peut aussi intervenir. À quel moment, à quel niveau la société peut intervenir, on le sait. La communauté, on sait à quel moment elle doit intervenir si jamais il y a une défaillance quelque part. Donc, à mon sens, chacun doit jouer. Dès que vous voyez, il y a, comment dirais-je, quelque chose arriver, ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part. Voilà, à mon sens, chacun doit jouer.
Merci beaucoup, M. Aboubakar. M. Amadou Oumarou, quel genre de soutien ou de prise en charge ces enfants méritent-ils?
En tout cas, pour atténuer ces conséquences, l'Observatoire régional a fait beaucoup de propositions, beaucoup de mesures ont été élaborées à ce niveau. Par exemple, la prise en charge de ces jeunes à leur pays d'origine ou leur village, par exemple. Renforcer le système éducatif. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des écoles là-bas, mais c'est de renforcer ce système éducatif. Il y a des écoles dans leur pays, dans leur village. Et de créer des centres. De créer des centres de formation, par exemple. Toutes ces mesures-là ont été élaborées par l'Observatoire et transmises aux collectivités qui vont transmettre peut-être à un partenaire pour donner réponse à toutes ces questions-là.
Merci. Enfin, Amadou Alassane, docteur régional de la promotion de la femme, protection de l'enfant, comment rendre un lendemain meilleur à ses enfants?
Monsieur Moussa, la question de création d'un lendemain meilleur aux enfants en situation de migration, que ce soit transfrontalière ou interne, en tout cas, regarde. Les acteurs, beaucoup d'acteurs, en premier lieu d'abord les services, les ONG qui sont en charge de la protection de l'enfant, qui œuvrent dans le cadre de la protection de l'enfant, des ONG au niveau national, international, les agences du système des Nations Unies, l'État, qui doit veiller à ce que vraiment qu'on crée les conditions d'un environnement protecteur pour les enfants, où les enfants vont s'épanouir. Et l'épanouissement d'un enfant ne se retrouve pas sur la route migratoire. L'épanouissement d'un enfant, c'est créer les conditions pour que l'enfant se sente à l'aise chez lui, il parte à l'école, il apprend quelque chose pour devenir utile, le mettre à l'abri des abus, des violences, de l'exploitation et surtout les questions de négligence. Donc, les porteurs d'obligations ont vraiment intérêt à s'investir au Niger dans les questions de protection pour que l'enfant qui est une richesse, comme on l'a dit, puisse profiter à la nation parce qu'ils seront les responsables de demain et l'avenir de tout un pays repose sur sa jeunesse. Si on n'a pas vraiment une jeunesse, si on a une jeunesse désœuvrée, irresponsable, le pays ne va jamais se développer.
Merci, nous sommes à la fin de ce forum de ce soir sur quel lendemain meilleur pour les enfants mineurs nigériens réfugiés d'Algérie. Donc nous pouvons retenir, les responsabilités sont partagées, comme l'avait dit tout un chacun. Le parent d'abord sont concernés, la société, l'État, la famille, donc pour solutionner ces problèmes, l'éducation de ces enfants est impérative, les droits à la santé, les droits aussi à la sécurité et soutenir aussi le parent. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir quand même de ces propositions de nos invités. Merci, nous étions en compagnie de Amadou Alassane, directeur régional de la promotion de la femme et de la la protection de l'enfant d'Agadez. Adamou Abi, chef d'état civil de la commune d'Agadez aussi. Amadou Oumarou, représentant de l'Observatoire régional de la migration. Aboubakar Sodé, représentant de la coalition nigérienne des droits des enfants CONID. Merci à toutes et à tous et au revoir.